L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Maintenant, qu'est-ce que Dieu nous réserve en 2010? On va prier ensemble. Amen. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour ta fidélité envers ton peuple en 2009. On veut te remercier, Seigneur, parce que tu es un Dieu merveilleux et tu as des projets de paix et non de malheur pour tes enfants. On te remercie, Seigneur, pour ta bonté. On te remercie, Seigneur, parce que cette année, en 2010, on s'attend de voir ta gloire éclater parmi nous. On s'attend de voir ta faveur. On s'attend, Seigneur, de voir ton Église avancer, ton royaume avancer dans cette région et partout à travers la francophonie. On veut te louer ce matin et on prie, Seigneur, que tu puisses nous donner tes yeux pour voir, Seigneur, qu'est-ce qui s'en vient. Qu'on puisse avoir tes yeux et tes oreilles pour entendre ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises en ce jour. On est pris au nom de Jésus pour ta gloire, Seigneur Dieu. Amen. Amen. Alors ce matin, on va parler de la vision pour l'an 2010 et j'aimerais ça vous partager un texte que les fondateurs des Églises à Victoire, Dr. George et Hazel Hill, ont donné à toutes les Églises de la Victoire, la parole qu'ils ont reçue de Dieu pour les Églises. C'est dans Actes, chapitre 9, verset 31, qui se dit « L'Église était en paix, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » Alors ça, c'est un bon texte, n'est-ce pas? Si on médite là-dessus, on peut voir il y a beaucoup de choses. Ici, l'Église était en paix. Qui aime ça, la paix? À la discorde, on n'aime pas ça, mais quand on marche dans la paix, qu'est-ce qui se passe? On s'édifie, on marche dans la crainte du Seigneur, et par la suite, on va voir l'accroissement. Et le pasteur Paul McCullough de Toronto, de l'église Barrie Victory Church, a reçu cette parole prophétique-là, même avant le début de l'année. Et puis, il a vraiment cru pour l'accroissement de son église locale. Et le pasteur George Hill avait dit, je décrète sur cette église le double en 2009. Mais savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vécu le double dans leur église en 2009. Alors, cette parole-là, c'est une parole qui est envoyée à toutes les églises, comme on va marcher dans la paix et comme on va marcher également dans la crainte du Seigneur, le Seigneur va faire grandir l'œuvre de Dieu parmi nous. Alors ça, c'est une parole encourageante qu'on a reçue, mais une des choses que moi je peux vous dire, c'est quand je priais, je cherchais la face de Dieu pour notre église locale, pour recevoir le message pour nous et la direction de Dieu pour l'église ici, j'ai eu une vision de la part de Dieu et je ne crois pas que c'est simplement réservé pour nous aujourd'hui. C'est pour ça que je crois que le message qu'on est en train de filmer aujourd'hui et d'enregistrer, ça doit être propagé partout à travers la francophonie avec les endroits que Dieu nous donne l'influence parce que je crois que c'est un message prophétique de l'heure. Et je ressens dans mon esprit quand j'ai reçu cette vision-là, je n'ai jamais reçu une chose pareille. Depuis toute ma vie chrétienne, je n'ai jamais reçu quelque chose comme ça. Et je ressens le cœur de Dieu dans qu'est-ce que j'ai reçu. Et je vais vous dire, au début, j'ai même partagé avec mon épouse Mathilde, puis j'ai dit, en tout cas, comme je racontais que j'avais vu, elle n'était pas contente, puis elle n'aimait pas ça, puis c'est normal. Mais je vais vous dire que quand Dieu nous avertit de quelque chose, c'est pour notre bien. Et comme on écoute l'avertissement, on fait partie de ceux qui sont protégés. Je veux juste vous dire, j'ai des choses à vous partager ce matin. Et moi, je crois, je dis gloire à Dieu pour l'avertissement. Je dis gloire à Dieu quand Dieu nous protège et nous annonce les choses avant qu'elles arrivent. C'est-tu bon, ça? Amen. Là, la vision et la parole prophétique 2010 que j'ai reçue, c'était dans Nahum. Et premièrement, la chose que j'ai vu, c'était comme des nuages sombres qui s'en venaient, mais c'était d'une rapidité. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une tempête, sûrement, là. On voit des nuages sombres, des nuages noirs, et quand ça s'en vient vite, ça nous parle d'une tempête qui s'en vient. Quelque chose qui s'en vient sur la francophonie, sur le monde. Et là, le Seigneur a déposé dans mon cœur, quand j'ai vu ça, il m'a déposé Nahum. Alors, je suis allé lire toute la prophétie du prophète Nahum. Et ce matin, je vais vous lire ce texte-là dans Nahum, chapitre 1 et le verset 3. En passant, le nom du prophète Nahum veut dire « consolation ». Donc, quand Dieu nous donne une parole, des fois, ça ne semble pas nous réjouir au début, mais c'est une consolation pour nous. Parce que si on l'écoute, on va être protégé. Amen. Donc, Nahum chapitre 1 et le verset 3, il est écrit, « L'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force, il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon, les nuées sont la poussière de ses pieds. » Voyez-vous, j'ai eu cette vision-là avec les nuages, et ce texte nous dit que les nuées sont la poussière de ses pieds. Et pourquoi? Pourquoi ça nous parle si l'Éternel marche dans la tempête? Mais il y a quelque chose en 2010 de difficile qui s'en vient dans le monde. Et Dieu ne m'a pas partagé plus que ça, mais j'ai vu qu'il y avait un jugement qui s'en venait. Et par la suite, j'ai eu la vision d'un feu. Et le feu est venu sur moi et m'a pas consumé pour me détruire, mais m'a consumé pour me donner la puissance que j'ai besoin pour marcher dans la sainteté en 2010, pour accomplir les desseins de Dieu. Et c'est la même puissance et le même feu que Dieu veut vous donner à tous et chacun, si on veut recevoir et si on veut se mettre en position pour ça. Et l'autre texte, ce que le Seigneur m'a donné, c'est dans Nahum, chapitre 1 et le verset 6. Il est écrit, « Qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra compte son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu. » Et les rochers se brisent devant lui. Je partageais ça avec mon épouse Mathilde, ces textes-là. Vous savez, l'année passée, en 2009, le Seigneur il avait donné une belle parole, « Élargissez la tente, c'est encourageant. » Et puis, « Ouhou, gloire à Dieu. » Et moi, ça se donne que j'ai une parole comme ça. Puis là, Mathilde a dit, « Ah non, c'est quoi ça, ces textes-là, Joël? » Mais j'ai dit, « Moi, je me dois de prêcher qu'est-ce que Dieu me donne. Je ne peux pas vous inventer quelque chose. » Et je vais vous dire pourquoi. Je veux juste vous encourager à tourner dans 2 Timothée chapitre 4 et le verset 2 à 5. 2 Timothée chapitre 4, verset 2 à 5. Ça, c'est le commandement de l'Éternel concernant tous ceux qui prêchent. Puis si on n'écoute pas qu'est-ce que Dieu nous dit, bien, c'est nous, on va être en trouble plus tard parce qu'on est redevable envers Dieu pour toutes les paroles qui vont sortir de nos bouches. Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 2 à 5, il est écrit, « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. » Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se détourneront, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Et devant l'Éternel, moi, qu'est-ce que je me dois, c'est de prêcher qu'est-ce que Dieu me donne. Et qu'est-ce que j'ai vu, c'était ça, c'est des nuages foncés et gris. Et je ressentais le cœur de Dieu. Vous savez, Billy Graham a dit que dans nos églises évangéliques, il croit qu'il y a environ juste 5% qui sont vraiment nés de nouveau. Juste 5% parmi nous qui sont vraiment consacrés à Dieu. Et qu'est-ce qui brise le cœur de Dieu, c'est qu'on a beaucoup de croyants qui vont dans les églises, qui se rassemblent et qui se pensent chrétiens, qui se pensent croyants, mais que finalement, ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas et ils vont être surpris plus tard. Et aujourd'hui, ce n'est pas un message de condamnation, ce n'est pas ça, parce que si vous choisissez la croix, vous n'êtes pas jugé, vous ne passerez pas au jugement. Et il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, si vous êtes en Christ et vous marchez avec la parole de Dieu et dans les préceptes de Dieu, vous n'avez pas besoin d'avoir peur ou de vous sentir jugé. Ce n'est pas mon cœur du tout. Mais le cœur de Dieu, c'est un appel à la repentance, que Dieu appelle l'Église de Jésus-Christ à revenir à la parole de Dieu, à revenir à marcher dans la parole de Dieu, parce qu'on va être bien surpris. Et moi, je crois en 2010 que Dieu va exposer des ministères. Il y a des choses qui vont être révélées en 2010 et des gens qui suivaient des certains courants, tout d'un coup, ils vont réaliser que qu'est-ce qui avait été prêché, c'était faux et erroné. Et puis, ils vont rechercher la vérité à quelque part. Et mon cœur aujourd'hui, c'est de ne pas vous garder, vous protéger et de vous empêcher de savoir qu'est-ce qui s'en vient, mais c'est de vous dire, préparez-vous. Préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Et comment est-ce qu'on fait ça? C'est en marchant dans la sainteté, dans la consécration. Et je crois, en 2010, il va y avoir une démarcation plus évidente qui s'en vient dans le corps de Christ. On va voir l'Église qu'on peut catégoriser comme étant l'Église charnelle et on va voir une Église en feu. C'est à ça que je m'attends en 2010, de voir une Église enflammée dans le feu de Dieu et une Église qui choisit la foi et qui va vivre la foi. Savez-vous, quand vous allez choisir la foi, ceux qui sont des croyants nominaux, qui portent le nom de chrétien, mais qui ne le sont pas en pratique, votre foi et votre flamme va les frustrer. Je crois ça. Ça va révéler qui ils sont par votre enthousiasme et votre feu et comment vous allez être rempli de l'Esprit de Dieu. Le fait de vous côtoyer et de voir comment vous êtes, ça va les frustrer parce qu'ils vont voir qui ils ne sont pas. Et la réaction possible, c'est de se frustrer contre vous. Et ça se peut, mais je m'attends même qu'il va y avoir des gens qui vont nous persécuter à cause justement de ce feu que Dieu nous donne, si on veut. Savez-vous, mais tous et chacun, on peut tous recevoir ce feu-là. On peut tous décider de marcher avec Dieu. Mais c'est juste ceux qui sont rebelles, qui ont le cou dur ou cou raide plutôt, qui ne veulent pas servir le Seigneur vraiment, eux vont être frustrés parce que leur religion en 2010 va être dérangée. Leur vie de religion, ça va être touché en 2010. Alors, en tout cas, ça, c'est les deux textes que le Seigneur m'a donnés. Et puis, une des autres choses, c'est que je crois et je ressentais que c'est la récolte des semences en 2010. Dans Genèse, chapitre 8, verset 22, il est écrit, « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Alors, Dieu a établi des lois qui sont toujours en opération. Et dans Galates, chapitre 6, verset 7 à 8, ça dit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Donc, c'est une loi d'établie que Dieu a établie. Si on fait une semence, si on va faire la semence de pommes, on va récolter des pommes. On fait des semences de tomates ou de carottes, peu importe, on va récolter ce qu'on aura semé. Au verset 8, il est écrit, « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Et aujourd'hui, l'encouragement, c'est de simplement prendre la résolution en 2010 et dire, moi, en 2010, je vais semer dans l'esprit. Je vais semer dans les choses de Dieu. Je vais mettre Dieu numéro un dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'on ne joue pas à l'Église. Si vous avez remarqué, mon cœur ici et la fondation de cette Église-là, ce n'était pas pour jouer à l'Église et de rajouter une Église de plus au Québec. Mais mon cœur, c'est de voir la gloire de Dieu éclater parmi nous parce que Dieu veut sauver la francophonie. Dieu veut sauver les gens perdus au Québec. Savez-vous ça? Ça, c'est le cœur de Dieu. Dieu veut sauver du monde, mais Dieu se doit d'avoir des gens, une compagnie prête à aller à la récolte. Et justement, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est être prêt à être les ouvriers entre les mains de Dieu pour aller récolter les âmes perdues. Dieu a besoin de nous. Et on doit se préparer. Mais Dieu n'enverra pas des gens qui vivent comme le monde. Savez-vous, si on se dit chrétien, mais on passe notre semaine à écouter la télévision, à écouter des choses qui font la peine et qui brisent le cœur de Dieu, et par la suite, on se rassemble dimanche matin, puis on prie, Seigneur, envoie ta gloire. Je m'excuse, ça ne marche pas de même. Ça ne marche pas de même. Et mon cœur, c'est de voir un peuple de Dieu, de gens qui ne sont pas sous un joug d'esclavage et de légalisme ou de règlement d'homme, mais qui sont convaincus dans leur cœur qu'ils veulent marcher dans la sainteté à cause de leur amour pour Dieu, pas à cause des exigences d'un mouvement religieux. Vous savez, on peut marcher d'une certaine façon et sembler marcher dans la sainteté, mais ça, c'est juste qu'est-ce que les hommes peuvent voir. Qu'est-ce que Dieu voit, c'est notre cœur et comment on le met numéro un dans nos vies. Et qu'est-ce qui est vraiment un message sévère de la part de Dieu? Puis vous savez, je prêche qu'est-ce que le Seigneur me met à cœur, donc ce n'est pas parce que ça me tente nécessairement de vous dire ça. Mais de l'autre côté, je trouve que c'est important de vous en partager parce que savez-vous, si on prêche d'autres choses que Dieu nous demande de prêcher, quand il y a des choses qui vont arriver, vous allez dire, mais comment ça personne ne nous en parlait? Est-ce que Dieu ne parle pas aujourd'hui? Est-ce que Dieu ne nous donne pas des avertissements pour se positionner? Mais ce matin, je peux vous dire que Dieu nous en donne tous et chacun un avertissement de se consacrer en 2010. Dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 17, 1 Pierre, chapitre 4, verset 17, ça dit, « C'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? » Donc, le jugement commence par la maison de Dieu. C'est nous, ça. Le jugement commence avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des ministères qui sont des ministères artificiels qui n'ont pas été appelés de Dieu ou qui prêchent un message erroné, qui sont dans la fraude, qui sont dans le péché. Ils vont être exposés. C'est ça, le jugement de Dieu. On va voir des grands ministères qu'on a vus devant nous, qu'on dit « Wow, c'est merveilleux ». Et on va voir des ministères tomber. Et on va voir l'enseignement qu'ils ont prêché, ça ne marchait pas, ça ne marchera pas, parce que ce n'était pas la vérité de Dieu. Mais là, ça peut être un message négatif et dire « Oh, le jugement commence par la maison de Dieu. Comment est-ce que Dieu va me juger? » Mais Dieu ne vous jugera pas si vous choisissez de vous juger vous-même. Savez-vous, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 31, c'est dit « Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. » Savez-vous, ça c'est merveilleux. Dieu nous dit « Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. » Alors, je peux me juger moi-même et dire, cette chose-là que je faisais, ce cœur-là que j'avais, la colère, l'amertume, toutes ces choses-là que j'avais, je décide de les abandonner. Et aujourd'hui, je reçois le pardon et j'ai jugé ce péché-là et j'ai jugé que c'était mauvais et j'ai jugé de me sanctifier et d'être purifié. Si vous faites ça, vous êtes purifié de la tête aux pieds, vous êtes vêtu d'un vêtement blanc et vous ne serez pas jugé. Parce que vous êtes caché en Christ. Et si vous êtes caché en Christ, vous êtes protégé. Comme le peuple d'Israël ont été protégés quand ils ont mis du sang sur les linteaux, Dieu a passé à côté. Il n'y avait pas la malédiction et le jugement qui est venu là, dans cette place-là. Et pareillement, comme nous sommes recouverts et purifiés, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Sauf que si on ne veut pas être purifié et si on refuse de se juger, bien là, on est avec les autres qui vont passer par le jugement. Mais Dieu ne veut pas ça pour nous. Dans Ésaïe 42, versets 8 à 9, c'est dit, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses ne sont pas accomplies, et je vous en annonce des nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. » Donc, ici, Dieu dit, « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Donc, aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a de l'idolâtrie dans nos vies? Est-ce que j'ai le goût d'être dans la maison de Dieu? Est-ce que j'ai le goût de servir Dieu? Est-ce que c'est quelque chose qui bouille dans mon cœur, ce désir de servir Dieu? Est-ce que je suis un chrétien endormi qui vit une religion évangélique ou est-ce que j'ai une relation vivante avec Jésus-Christ? C'est ça la question qu'on peut se demander. Est-ce que j'ai une relation vivante avec Jésus? Et est-ce que mon cœur est disposé pour les choses de Dieu? Est-ce que j'ai le goût de servir Dieu? Est-ce que j'ai le goût de m'approcher de Dieu? Ou est-ce que je vis une religion? C'est une question aujourd'hui qu'on peut voir. Dieu ne donnera pas sa gloire à un autre, ni son honneur aux idoles. Dans Luc 12, versets 2 à 3, c'est dit, « Il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts, ni de secrets qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. » Donc ici, ça nous dit que le péché secret ne sera pas secret, parce que Dieu va exposer des choses. La récolte des semences. On peut choisir aujourd'hui de dire, « Bien, je connais cette parole, je la reçois. » Et je décide que moi, je veux être purifié et je veux marcher dans le chemin de Dieu. Et comme je veux marcher avec lui, gloire à Dieu, je vais être protégé. Savez-vous, c'est tellement simple, mais ça prend un choix. Et aujourd'hui, j'aimerais ça lire quelques textes avec vous. Et je sais, c'est assez solennel comme enseignement. C'est pas un enseignement sur comment nécessairement nous avons la victoire, hein? Mais nous l'avons quand même. Savez-vous, on l'a quand même quand c'est un message comme ça, parce qu'à cause de notre positionnement en Jésus, on a la victoire sur contre tout jugement qui s'en vient. Dans Lévitique chapitre 10, on va regarder ça ensemble. Lévitique chapitre 10, on va regarder quelques textes ensemble concernant le feu et concernant la semence et les récoltes. Lévitique chapitre 10, on va lire versets 1 à 3. Il est écrit: Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel un feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, « C'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Aaron garda le silence. Ici, nous savons que les deux prêtres, Nadab et Abihu, ont pris le feu, qui devait être un feu sacré. Ils devaient prendre un feu sacré de l'autel de l'Holocauste et de l'apporter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris un feu qui venait d'une autre source. Et à ce moment-là, c'était contre la volonté de Dieu. Et ça devenait un feu profane. Et ils ont offert ça à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien, ils ont été consumés par le feu et sont morts. Parce qu'ils ont pris les choses de Dieu qui étaient sacrées. Ils ont pris ça à la légère. Et vous savez, on peut vivre la vie chrétienne pendant des années de temps et penser que c'est, et prendre ça à la légère et dire, les choses ne changent pas, ça va d'un jour à l'autre, c'est toujours pareil. Et la grâce de Dieu est là pour nous, pour nous protéger. La grâce de Dieu est là, la grâce de Dieu est là. Mais il y a un temps aussi où Dieu enlève sa main et il permet à des jugements de venir. Il permet à des choses d'arriver. Mais il nous avertit toujours à l'avance. Puis il dit, mon jugement s'en vient et je vous demande de vous positionner dans ma protection parce que je vous aime. Et c'est à nous d'écouter. Puis après, si on décide de désobéir puis on ne veut pas être protégé, on vit qu'est-ce qui arrive. Ici, on voit Nadab et Abihu qui étaient deux prêtres qui ont été consumés par le feu. Dans Matthieu chapitre 7, ici on va regarder ensemble. Là, peut-être vous vous dites, bien là, quand on est un enfant de Dieu, on n'est pas supposé être protégé. Savez-vous, quand on est un enfant de Dieu, on a un héritage glorieux, mais ce n'est pas tous les croyants qui en bénéficient. Savez-vous ça? Ça, c'est clair comme de l'eau de roche, hein, n'est-ce pas? Il y a plein de promesses dans la Bible. Est-ce que tous les chrétiens vivent ces promesses-là? Non, c'est clair. La majorité des chrétiens ne vivent pas les promesses de Dieu. Alors Dieu, il y a toujours une provision pour son peuple, il y a toujours des promesses, et c'est à nous de dire oui et de croire et de recevoir et de vivre. C'est toujours, toujours ça. Pareillement avec le jugement, si Dieu dit « je veux vous protéger », bien, le nom de Nahum pour nous, qui veut dire « consolation », ça devrait nous consoler et dire « merci Seigneur parce que je suis ton enfant, puis moi je vais me cacher sous l'abri du Très-Haut. À cause de ça, merci Seigneur parce que les choses qui s'en viennent ne me toucheront pas. Merci Seigneur. » Mais il faut être dans le bon chemin. Et c'est là ce qu'on va lire ensemble, Matthieu chapitre 7, et verset 13. Je vous invite à tourner là parce que c'est assez long le passage, puis on va le lire ensemble. Matthieu chapitre 7 et le verset 13. Comme vous savez, comme j'ai dit tantôt, moi, je n'ai jamais reçu une vision de même de la part de Dieu avant le temps qu'on vient de vivre. J'ai reçu ça à Noël en même. En fait, c'était le jour de Noël, genre à minuit le soir, quand je priais, juste avant le 26. Donc, dans Matthieu chapitre 7, verset 13, il est écrit « Entrez par la porte étroite. » Car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée, le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Voyez-vous ici, le chemin là, qui se rend au ciel est resserré. Ensuite, verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Donc ça, c'est simple. Vous voulez savoir est-ce que quelqu'un est de Dieu ou non? Regardez leurs fruits et ça va vous indiquer. Verset 21. Un faux prophète, en passant, va toujours vous dire des paroles qui vont vous plaire. Et vous allez être en chemin vers la destruction, puis il va dire, « Continue comme ça, ça va bien, mon homme. Continue, continue. » Un faux prophète va vous induire en erreur parce qu'il va juste vouloir vous flatter le sens du poil. Mais ce n'est pas ça que vous avez besoin. Verset 21, c'est dit, « Ceux qui me disent, « Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Regardez bien ici. Si on demande à quelqu'un, est-ce que tu es un enfant de Dieu? Bien, les gens vont dire, oh, ben oui, j'ai accepté le Seigneur. J'ai fait une profession de foi, une fois dans ma vie, il y a 10 ans. J'ai professé le nom de Jésus-Christ. Est-ce que c'est assez de professer le nom de Jésus? Relisons. Verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Savez-vous comment est-ce qu'on peut savoir si quelqu'un est un enfant de Dieu? Et si vous êtes un enfant de Dieu, savez-vous comment qu'on va le voir? Par votre vie. Est-ce que c'est le salut par les œuvres? Non. C'est le salut par la grâce, par le moyen de la foi. Mais savez-vous, si vous avez une foi en Jésus-Christ, votre vie va refléter une vie transformée et touchée par la main de Dieu. Si vous n'avez jamais vécu de changement dans votre vie depuis que vous avez supposément accepté Jésus-Christ, vous n'êtes pas sauvé. S'il n'y a pas de changement, il n'y a pas eu de changement dedans. C'est difficile peut-être que je vous dis. Si dans votre vie, depuis que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ et depuis que vous avez rencontré Jésus, s'il y a eu zéro changement dans votre vie, je m'excuse, vous n'êtes pas sauvé. C'est dur, mais c'est la réalité. Un salut, pas de changement, ce n'est pas un salut. Quand on rencontre Jésus, on est touché puis on change. Il y a un changement qui se passe. Gloire à Dieu. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Donc, un enfant de Dieu, on va le reconnaître par ses fruits. Ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, sauf que les œuvres dans notre vie révèlent qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Savez-vous, quand vous rencontrez le Seigneur Jésus et l'Esprit de Dieu vient vous habiter, il vous donne des nouveaux goûts. Tout d'un coup, vous n'avez plus le goût de sacrer, vous n'avez plus le goût de faire les péchés que vous aviez fait autrefois. Et comme vous êtes sauvé, là, votre cœur est bouillonnant et vous aimez Dieu. Il y a un amour pour Dieu. Vous êtes attaché aux choses de Dieu. Vous avez le goût d'aller à l'église, ça vous dérange pas, mais au contraire, vous avez hâte d'y aller. Vous voulez écouter des enseignements la semaine parce que vous avez une soif de Dieu. Ça, c'est la vie chrétienne normale. Si c'est pas ça, la Bible nous dit comment est-ce qu'on peut savoir si on est vraiment un enfant de Dieu. Je vais vous inviter dans 2 Corinthiens chapitre 13 et le verset 5. Dans nos églises chrétiennes, on va demander à quelqu'un, est-ce que tu es sauvé? Oui. Et puis si la personne se pose une question 10 ans plus tard, moi je me demande, j'ai-tu vraiment été sauvé? Qu'est-ce qu'on va faire, savoir si la personne a été sauvée? On va dire, bien, as-tu déjà donné ta vie à Jésus? Oui, j'ai fait une prière il y a 10 ans. OK. Puis après, c'est ça, j'ai fait une prière il y a 10 ans. Est-ce que c'est comme ça que Dieu nous dit de voir si quelqu'un est sauvé? Parce que la majorité de nos églises, on va dire, ah bien, tu as fait une prière, mais tu es sauvé d'abord. Tu as fait une prière, tu es sauvé. Est-ce que c'est par une profession de prière, juste des paroles dans les airs, que ça change vraiment l'état éternel dans notre cœur? Non. Ce n'est pas juste des paroles comme ça. Et c'est un mythe de penser que juste dire des paroles, ça va nous sauver. Savez-vous qu'est-ce qui nous sauve? C'est quand on confesse de la bouche le Seigneur Jésus, mais ce qu'on croit dans notre cœur. On peut répéter des paroles puis pas y croire. Savez-vous ça? Vous pouvez dire Jésus est Seigneur, mais si vous ne le croyez pas, ça ne changera pas votre vie. Il faut que ça vienne du cœur. Il faut que ça soit dans le cœur. Savez-vous comment Dieu nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, ça dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Il ne dit pas « Rappelez-vous si vous avez fait une profession de foi un jour dans votre vie, si vous l'avez déjà dit. » Non. « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. » Si on réalise, il n'y a pas eu aucun changement dans ma vie depuis que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, bien quelque part, peut-être je ne suis pas encore sauvé et j'ai besoin que ce cri du cœur sorte et je dise au Seigneur, pardonne-moi et je réalise que je suis pécheur, j'ai besoin du Sauveur. Que ça vienne un cri du cœur. Et quand ça vient un cri du cœur, il y a quelque chose qui va se passer et on va vraiment être transféré du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Il va y avoir quelque chose qui va se passer et notre vie va refléter Jésus-Christ et on va marcher dans un chemin digne de Jésus. Et je répète, ce n'est pas un salut par les œuvres, mais votre vie est une révélation que vous êtes un enfant de Dieu. C'est ça qui révèle, c'est les fruits. Hein, ce n'est pas en allant au McDonald's qu'on devient un Big Mac et ce n'est pas en allant à l'église qu'on devient un chrétien. C'est en donnant notre vie à Jésus-Christ. Et que ça vienne d'un cri du cœur, parce qu'on réalise qu'on a besoin d'un sauveur, et on est prêt à mourir à nous-mêmes pour vivre pour Jésus-Christ. Quelque chose moins que ça, ce n'est pas un vrai salut. Alors ça, c'est la première chose, c'est de se juger soi-même et dire, est-ce que je suis vraiment sauvé? Et si on peut dire, oui, j'ai eu un changement dans ma vie, j'ai une relation d'intimité avec Dieu, Et peut-être je suis pas là où ce que je devrais être, mais gloire à Dieu, je reçois son feu pour être encore plus proche de lui en 2010. Ça, c'est qu'est-ce qu'on peut faire. Dans Matthieu 3, 11, Jean-Baptiste avait dit, en parlant de Jésus, « Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Il y a un feu pour l'enfant de Dieu. Il ne faut pas qu'on marche une vie chrétienne par nos propres forces, mais Dieu veut nous donner la puissance du Saint-Esprit pour qu'on puisse marcher dans la plénitude de son esprit. Et dans Joël, chapitre 2, versets 28 à 29, ça nous parle comment le Seigneur va répandre son esprit sur toute chair. Il y a une compagnie de gens qui vont être revêtus, et je crois pour moi-même, pour ce revêtement-là. Amen. Alors, ça, c'est l'avertissement pour 2010, qu'un jugement qui s'en vient. Mais heureusement, il y a une protection pour ceux qui vont choisir l'épée de Dieu, la parole de Dieu et ses promesses, qui vont choisir de croire la parole de Dieu et qui vont marcher avec le Seigneur Jésus. Le psaume 145, versets 17 à 20, il est écrit, « L'Éternel est juste. » Rappelez-vous toujours, toujours de ça. Si vous rencontrez des chrétiens qui vont se plaindre et se dire, « Mais je comprends pas telle affaire m'arrive. Pourquoi? Je suis un enfant de Dieu, puis comment ça, ça m'arrive? » Rappelez-vous, Psaume 145, versets 17 à 20, ça dit, « L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. » Si vous craignez l'Éternel, vous avez une crainte de Dieu, vous ne vous moquez pas de Dieu, puis vous ne prenez pas sa sainteté à la légère, mais vous voulez plaire le Seigneur avec votre vie, bien Dieu, il dit, il va accomplir les désirs de vos cœurs. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Il ne faut pas arrêter là, il détruit tous les méchants, mais il faut se rappeler que certainement l'Éternel garde ceux qui l'aiment. Et la promesse de l'Éternel, c'est dans Ésaïe 43, verset 2, il est écrit, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrassera pas. » N'est-ce pas merveilleux? Peu importe ce qui va arriver en 2010 dans l'Église de Jésus-Christ et dans la société, j'ai cette promesse-là, vous avez cette promesse-là. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Ça, c'est merveilleux de savoir ça. C'est une consolation pour nous. Vous savez, quand quelqu'un va voir un médecin, admettons, quelqu'un reçoit l'annonce, une personne reçoit l'annonce qu'elle a le cancer, et le médecin lui dit, il y a un cancer ici, il faut traiter ça. La personne, la première réaction, c'est la tristesse. Et la personne n'est pas contente et elle ne se réjouit pas, mais contente d'avoir su qu'elle avait un cancer pour pouvoir suivre le traitement pour être guérie. N'est-ce pas? La personne est contente d'être informée. C'est pareil avec Dieu. Au début, on n'aime pas ça. Et quand beaucoup de prophètes dans l'Ancien Testament, ils prêchaient des messages. Vous regardez Jérémie. Ils prêchaient toujours le jugement, puis la repentance. On connaît, vous savez, Jonas a prêché à la ville de Ninive, il prêchait la repentance, et là, les gens se sont repentis, et le jugement est passé. Plus tard, 100 ans plus tard, Nahum a la mission de Dieu, pas prêcher la repentance, mais cette fois-là, il prêchait le jugement qui s'en venait. C'est pour la même ville, le même peuple, Ninive. Des fois, on se repent, mais il faut demeurer dans la repentance. Une fois qu'on est sauvé, c'est pas une repentance une fois, puis vivre comme le diable le reste de nos jours. On est sauvé, on s'est repenti une fois et on marche dans le chemin de la repentance. On veut marcher pour plaire à Dieu toute notre vie. On est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi, et c'est la même façon qu'on vit la vie chrétienne, par la foi. Mais on juste vivra par la foi. Donc, la protection en 2010. Et qu'est-ce qui est merveilleux? Pourquoi est-ce que ce jugement qui s'en vient? Puis ça, je me demandais, mais comment ça, tout d'un coup, savez-vous, Dieu aime tellement les perdus qui se doit d'avoir un peuple de croyants qui marche dans la sainteté pour aller chercher les perdus. Et pourquoi qu'on vit ça? Parce que c'est l'année de la moisson. Et si vous vous rappelez d'une chose cette année, là, pour vous et pour notre église locale, on a la parole prophétique qu'on a lue au début, mais pour notre église, c'est l'année de la moisson. Jean 4, verset 35, il est écrit, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. C'est l'année de la moisson des semences qu'on va avoir semées. Si on a semé des mauvaises semences, on a semé dans le péché, savez-vous, vous avez l'autorité d'appeler une annulation de ces semences-là. En anglais, on dit un « crop failure ». Il y a une récolte qui s'en vient, on ne la veut pas, on la maudit au nom de Jésus, et je décrète que cette récolte de mauvaises semences, elle est maudite et elle ne vivra pas. Savez-vous, vous avez le droit. Si vous avez semé dans le péché, vous décrétez que ça, c'est détruit, et maintenant, vous semez dans l'Esprit de Dieu, dans les choses de Dieu, et là, vous appelez la récolte de la bonté de l'Éternel, vous appelez la récolte des choses de Dieu dans vos vies. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Vous appelez les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Vous avez des besoins dans votre vie. Prenez les promesses de Dieu et commencez à louer le Seigneur pour ses promesses et voyez la récolte de ces semences-là en 2010. Croyons ensemble pour vivre cette récolte-là. Amen. C'est l'année de la moisson. Et savez-vous, en 2004, quand j'ai eu une visitation qui a changé ma vie, j'ai eu une vision de la tour Eiffel et j'ai entendu très fort dans mon esprit, c'est-à-dire la France ne sera plus connue pour la tour Eiffel, mais pour le vent de l'esprit. Et savez-vous, quand j'ai reçu ça en 2004, en tout cas, ça m'a vraiment touché, puis c'était tout dans le temps quand le Seigneur me travaillait pour la francophonie. Et ça s'adonne que cette année, en 2010, c'est l'année où c'est que je m'en vais en France pour prêcher pour la première fois. Est-ce que c'est stratégique de Dieu? Moi, je crois que oui. Je crois qu'en 2010, il y a des choses, c'est une moisson d'âmes qu'on va voir parmi nous, localement, mais aussi partout dans la francophonie. Je m'attends de voir une croissance du nombre de croyants. Mais en même temps, je m'attends de voir, malheureusement, des gens qui vont se détourner de Dieu parce qu'ils vont être déçus. Ils vont être déçus parce qu'ils vont avoir entendu prêcher des affaires qui étaient fausses, qui vont se détourner. Mais il faut prier pour ces gens-là qui se tournent vers Dieu. Il faut prier pour eux. Mais c'est cette année, c'est pour ça qu'il y a un nettoyage qui va se passer, pour qu'on puisse voir la récolte et le réveil. Dans Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 2, il est écrit, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. » Sur nous, la gloire de Dieu apparaît. Même s'il y a des ténèbres, même s'il y a le jugement, sur nous, on a la protection de Dieu. Sur nous, la gloire de Dieu apparaît, si on choisit de dire oui à Dieu. Savez-vous, dans Éphésiens chapitre 5, verset 27, ça nous parle que Jésus va faire paraître devant lui cette église glorieuse devant Dieu, cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Jésus s'en vient rechercher une épouse sainte qui marche dans la sainteté, qui aime Dieu et qui a Dieu en priorité. Ce matin, c'est un message assez simple, mais qui m'a touché. Et je crois que c'est le cœur de Dieu pour ses enfants. Que ses enfants puissent choisir de dire oui et de marcher avec lui. C'est simple en réalité. Quand on pense, le Seigneur Jésus, il veut nous guider dans de verts pâturages. Puis il dit... Tenez ma main, marchez avec moi. Si vous marchez avec moi, je vais vous protéger de tout ce qui s'en vient. Peu importe ce qui s'en vient, marchez avec moi, faites-moi confiance. Et qu'on puisse dire oui au Seigneur Jésus, dire oui Jésus, je marche avec toi. Je ne ferai pas mon indépendant et dire non, correct, je vais faire ma propre route. Je vais essayer de me débrouiller sans toi. Pourquoi faire ça? Pourquoi se débrouiller sans Dieu? Quand on pense à l'histoire que j'ai lue tantôt dans Lévitique, eux, ces deux-là, les deux prêtres, se pensaient plus fins que Dieu, qu'ils pouvaient prendre des choses sacrées de Dieu et faire de quoi de profane avec. Et le jugement est tombé sur eux. Il y a un temps où la culmination de la grâce, Dieu, la grâce est là, encore jusqu'à temps qu'il va y avoir l'enlèvement de l'Église, on est dans la période et dans la dispensation de la grâce. Mais même avant l'enlèvement de l'Église, je crois et on s'attend de voir un réveil d'âme. Et pour ce faire, il doit y avoir une église qui évangélise, il doit y avoir une église qui est en feu et qui vit la gloire de Dieu, pour que les gens qui sont perdus puissent dire, « Wow, il y a quelque chose de vrai, il y a quelque chose de vrai que vous prêchez, non seulement que vous prêchez, mais que vous vivez. » Savez-vous, si vous allez au cinéma, vous êtes un croyant, un ambassadeur de Jésus-Christ, et vous voyez des images qui sont malsaines là-dessus, et vous êtes vous êtes vu de votre voisin, votre voisine, et qu'ils disent, « Hein, ce croyant-là, ce chrétien-là, il vient voir les mêmes choses que moi. Dans le temps des fêtes, moi, je me saoule, puis ce chrétien-là, il fait pareil. Moi, je sac, lui, il fait pareil comme moi. » Pensez-vous que cette personne-là est un bon témoignage pour le Seigneur Jésus? Ma prière pour chacun d'entre nous, et ce message, comme je vous dis ce matin, ce n'est pas juste pour vous. Mais je crois qu'il y a beaucoup de personnes par l'Internet qui nous écoutent et que c'est l'appel de Dieu en ce moment, au début de l'année en 2010, que c'est un avertissement prophétique. Et si on dit oui au Seigneur, le Seigneur va nous protéger et on va vivre la gloire de Dieu et on va faire partie de ceux dans le feu, pas pour être consumés par le jugement, mais dans le feu pour vivre justement la gloire de Dieu. Parce que le feu peut faire deux choses, peut venir nous consumer ou peut venir nous purifier et nous qualifier pour le service pour Jésus. Est-ce qu'on veut être qualifié ou consumé? Moi, je vais être qualifié pour le service de Dieu. Amen. Vision double en 2010. Croyez-vous que c'est possible? Comme nous allons marcher dans la sainteté, dans la crainte de Dieu et dans la révérence, on va chercher Dieu, prier ensemble. Savez-vous, c'est impossible de ne pas vivre de croissance. C'est impossible. Impossible. Parce que Dieu nous conduit toujours de gloire en gloire. Il nous conduit de gloire en gloire. Comme on s'approche de lui, il s'approche de nous. Et comme on est plus proche de lui, savez-vous, l'onction de multiplication est sur Jésus. Et quand Dieu a créé l'être humain, il a dit « Soyez féconds et multipliez-vous ». Nous avons l'onction et la bénédiction de la multiplication parmi nous. Et on a même une parole prophétique de la Californie qui est venue, qui dit que toutes les églises, comme ils vont marcher dans la paix et dans la crainte du Seigneur, ils vont s'édifier. Et puis non seulement ils vont être édifiés, mais ils vont grandir, ils vont s'accroître. C'est la parole qu'on reçoit ici. Choisissons de se décider et de se mobiliser. C'est ça que ça nous coûte, de se décider pour Jésus. Et savez-vous, on n'a pas besoin de venir en avant dans un appel et dire « Ok, oui, je donne ma vie à Jésus ». On peut le faire, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça marche avec une décision dans notre cœur. Parce qu'on peut venir en avant puis retourner chez nous puis pas changer. Mais si vous êtes à votre place et vous dites « Seigneur, ok, je l'ai vécu la vie chrétienne religieuse pendant 25 ans, je suis tanné. Seigneur, maintenant, je suis prêt vraiment de donner ma vie. Change ma vie. Faites quoi, Seigneur Dieu? Change-moi. Délivre-moi, Seigneur Dieu. » Savez-vous, Jésus l'a déjà tout fait pour vous. Il vous a déjà délivré il y a 2000 ans. Il a déjà pleinement payé le prix pour nous. Il faut se décider. Et par la suite, quand on dit oui au Seigneur, on se mobilise. On commence à faire quelque chose. Si Dieu a déposé en vous des rêves, des visions, des projets, attendez pas 10 ans. Faites de quoi? Commencez. Priez premièrement et sachez que Dieu veut que vous puissiez prendre des pas, un pas par la foi. Je parlais avec une sœur qui avait à cœur un projet pour les enfants. Mais j'ai dit, ben, commence à écrire des textes, commence à écrire des pièces de théâtre, commence à écrire des choses. Et puis elle dit, ah ben oui, je peux faire ça. Oui, il faut commencer quelque part, il faut se mobiliser à faire l'œuvre de Dieu. Et discernons une autre chose, discernons les stratégies de l'ennemi. C'est de nous endormir les croyants, bloquer l'épanouissement des croyants et neutraliser l'Église pour créer une religion. Ce n'était jamais l'idée de Dieu, ça, nous neutraliser pour qu'on puisse s'endormir et juste vivre une vie chrétienne, religieuse. Et une autre question que je vais vous poser. Si votre engagement menait au salut de votre famille perdue, est-ce que ça vaudrait votre temps et votre dérangement? Si le fait là, d'être actif pour Jésus-Christ, pas actif pour une religion, actif pour Jésus, est-ce que ça vaut la peine si toute votre famille se convertit en 2010? Avez-vous la vision pour ça? La consécration et la constance, c'est la semence de l'excellence. Un petit texte que je vous ai composé, ça rime en plus. Mais c'est vrai, il y a des gens qui veulent voir des percées, qui veulent vivre la gloire de Dieu, mais c'est comme ça dans leur vie chrétienne. Si vous voulez vivre des montagnes russes dans votre vie chrétienne, embarquez sur le montagne russe. Mais débarquez, l'autre choix, c'est de débarquer du montagne russe, et d'embarquer sur le chemin de Dieu et marcher avec lui. Laissez-vous conduire. Mais consacrez-vous à Dieu et soyez constant. Marchez pas deux jours avec le diable et changez de partenaire après avec Jésus, après avec le diable. Restez toujours avec Jésus. C'est le meilleur ami. Le diable, il peut être vêtu en rouge avec des cornes, mais non, c'est pas le meilleur ami. En terminant, si cette semaine j'ai reçu un texte de Martine Bousquet qui m'a envoyé ce texte-là. Dans la constance réside la puissance. Une pensée de Gloria Copeland. La constance. Dans la constance réside la puissance. Si en 2010, on veut voir cette place grandir, est-ce que Dieu peut s'attendre à vous d'être fidèle au poste? Est-ce que le Seigneur peut s'attendre à vous d'être fidèle dans vos engagements envers lui? Ou est-ce que vous allez être chambranlant, inconstant? Dans Jacques, ça dit que celui qui est inconstant dans toutes ses voies, qui s'attend de rien recevoir de Dieu. Ce n'est pas une parole qui vous tente encore. Hein? J'ai la collection de versets qui ne vous tentera pas ce matin. Mais savez-vous, si vous croyez, qu'est-ce que je vous dis, puis vous dites, ouais, c'est vrai, cette année, je peux prendre une décision pour Jésus et vivre 2010 comme la meilleure année de ma vie. C'est possible. Ça peut être la meilleure année de votre vie parce que vous allez être rempli de la présence de Dieu. Vous allez être une source pour d'autres croyants qui vont se demander, mais comment ça, toi, telle chose, ça ne t'arrive pas, puis moi, tout m'arrive de mal. Là, vous pourrez dire, marche avec moi comme je vais marcher avec Jésus. Comme l'apôtre Paul le dit, suivez mon exemple. Suivez-moi comme moi je suis Christ. Si vous marchez avec Jésus, les autres gens, ils vont pouvoir vous suivre comme vous allez marcher avec Jésus. Vous allez être une inspiration de bénédiction et les gens vont dire, il y a quelque chose sur toi de différent. Il y a quelque chose. Toi, on dirait que tu es protégé. On dirait que tu vis dans une bulle de gloire. Savez-vous qu'est-ce que vous pourrez répondre par la suite? C'est vrai. Je vis dans une bulle de sa gloire dans ma vie. Amen. Ce matin, je vais vous inviter à pencher vos têtes. On va prier ensemble. Seigneur, ce message, c'est un message plus difficile, mais c'est un message merveilleux parce que, Seigneur, ça nous permet de se mettre, Seigneur, devant ton trône et de réaliser qui nous sommes. Et Seigneur, on te demande pardon. On te demande pardon, Seigneur, d'avoir été des chrétiens endormis parfois. Et Seigneur, je te demande aujourd'hui que tu puisses déposer ton feu en nous, qu'on puisse vouloir te servir en 2010 de tout notre cœur, qu'on puisse vouloir marcher avec toi tous les jours, Seigneur, que ce soit quelque chose de bouillant en dedans de nous. Et Seigneur, s'il y a des gens qui n'ont jamais accepté Jésus, qui ne t'ont jamais accepté dans leur vie, aujourd'hui, on t'accepte, on te dit oui. Viens prendre contrôle de nos vies, Seigneur Dieu. Change-nous par en dedans. Transforme-nous. Donne-nous cette nouvelle nature pour qu'on puisse marcher avec toi. Merci, Seigneur, pour la puissance de ton esprit qui nous équipe en 2010. Merci, Seigneur Dieu, que tu es avec nous. Même si on passe à travers les fleuves, même si on passe à travers le feu, on sait, Seigneur, que tu es là avec nous. Et Seigneur, on est protégé et on reçoit aujourd'hui notre héritage du psaume 91. On marche dans la protection divine. On choisit le feu, pas le feu du jugement, mais le feu de ton esprit qui vient nous équiper pour le service du grand Dieu, de notre maître. Seigneur, aujourd'hui, on te choisit. Je choisis de marcher avec toi. Je choisis, Seigneur Dieu, de marcher dans la stabilité. Seigneur, je refuse d'être médiocre, je refuse d'être inconstant dans toutes mes voies. Mais Seigneur, je veux marcher avec toi tous les jours. Et je veux faire mourir cette chair pour marcher dans l'esprit. Je te remercie, Seigneur, parce que si tu prends la peine de nous donner des messages comme ça et de nous communiquer des visions comme ça de qu'est-ce qui s'en vient, c'est parce que tu aimes tes enfants. Tu nous aimes, Seigneur. Et tu ne veux pas qu'on passe à travers les choses difficiles. Tu veux nous épargner. Seigneur, donne-nous la sagesse de te dire oui aujourd'hui. Seigneur, pour ceux qui sont à la radio aujourd'hui, pour ceux qui sont même par la télévision, par l'Internet, donne-nous la sagesse de te dire oui, Seigneur Dieu. Donne-nous la sagesse. On te remercie, Seigneur, pour ta protection. On te remercie, Seigneur, parce que tu n'as pas fini avec nous. Et tu n'as pas fini avec la francophonie. Mais Seigneur, on reçoit cette vague de ta gloire. On reçoit cette vague de ta gloire, cette vague avec plein d'âmes dedans, des âmes sauvées, nées de nouveau. On te remercie pour la récolte en 2010, Seigneur Dieu, la récolte d'âmes, des gens qui vont se tourner vers toi. Merci, Seigneur, aussi de nous donner la foi et la vision pour voir, Seigneur, qu'est-ce qui s'en vient. La vision des âmes, la vision double pour notre église locale et double même dans les églises de Granby. Que chaque église dans cette région soit doublée en 2010. Doublée avec des âmes, des gens en feu pour toi. Et Seigneur, ceux qui sont endormis, on prie au nom de Jésus que tu viennes les réveiller ce matin. Réveille les chrétiens, Seigneur Dieu. Réveille-nous, Seigneur, qu'on ne passe pas à travers le jugement, mais qu'on puisse être épargné par toi. Réveille-nous, Seigneur Dieu. Réveille ton Église, Seigneur Dieu. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir vécu une religion, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Change nos cœurs. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour envers nous, Jésus. Merci parce que tu es un bon Dieu. Merci, Seigneur, parce que cette année 2010, ça va être l'année la plus glorieuse pour cette Église. L'année la plus glorieuse, Seigneur. On voit cette église doublée. On voit des gens en feu arriver. Des gens qui sont endormis arriver, mais qui deviennent enflammés par toi. On les voit arriver, Seigneur Dieu. On voit les gens qui sont en chaise roulante. On les voit se lever cette année en 2010, Seigneur Dieu. On voit toutes ces choses. On voit les professeurs de l'école du dimanche qui vont se rajouter. On voit, Seigneur, l'équipe de la louange qui se rajoute aussi. Plein de gens qui se rajoutent, des gens qui sont loin de Dieu, mais aussi, Seigneur, des adorateurs. Pas juste des musiciens, des adorateurs, premièrement, des gens qui sont en amour avec toi. Puis, Seigneur, je prie aussi pour ceux qui ont des dons et des talents de cacher aujourd'hui. Je prie pour les gens dans cette assemblée aujourd'hui qui ont des dons, des talents de cacher. Ça fait des années que ça dort. Aujourd'hui, je prie, Seigneur, que ton souffle, Seigneur Dieu, vienne sur eux. Ils viennent ranimer, Seigneur, le feu dans les cœurs pour qu'ils puissent être actifs pour toi. Seigneur, qu'il n'y a pas personne dans cette église qui dorme, Seigneur Dieu. Qu'il n'y a personne ici qui va passer l'année 2010 couché spirituellement. Mais que tout le monde puisse être allumé. Que nos dons puissent être relâchés en 2010. Puis qu'on puisse voir cette église avancer. Et qu'on puisse voir plein d'églises à Granby avancer dans l'unité, dans l'amour. Je te remercie, Seigneur Dieu. Je te glorifie. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vais inviter l'équipe de la louange à avancer maintenant. On peut acclamer le Seigneur, il en est digne. Merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Sois loué. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Et la semaine prochaine, ça va être un autre thème, à moins que Dieu me donne quelque chose. Carrément changer la cédule. La semaine prochaine, on va parler de cette vie de jubilé. Rayer tout l'endettement, rayer toutes les choses de l'esclavage de l'ennemi. Hein, ça va être une parole, je pense, ça va nous aider. Parce que Dieu est préoccupé avec toutes les dimensions de notre vie, spirituellement, mais aussi même dans le physique. Dieu est intéressé à nous, à tous les niveaux. Dieu nous aime, Dieu veut nous protéger. Amen.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.